les capitalistes et leurs serviteurs politiques plongent tout de la société dans la barbarie, avec leur guerre et la crise de leur système. Regardez le sort que les principaux dirigeants de la planète réservent aux migrants qui fuient l'enfer qu'est devenu pour eux le Moyen-Orient ou l'Afrique de l'Est. Faut-il être désespéré? Faut-il être acculé par les bombes, par la guerre, par la faim et la pauvreté pour prendre ses quelques affaires, ses quelques économies, entraîner ses enfants, ses vieux parents et tout quitter et trouver le courage de traverser la Méditerranée entassé sur des embarcations de fortune, sachant que des milliers parmi eux y trouveront la mort? Ces femmes et ces hommes le feraient-ils s'ils avaient la moindre possibilité de faire autrement? Bien sûr que non. Et bien pourtant, l'Europe leur est fermée. Elle les livre à des passeurs sans scrupules et se transforme face à eux en une véritable forteresse. De la Macédoine à la Hongrie, en passant par Calais ou Vintimille, c'est à coups de matraque et par des barbelés toujours plus hauts que les dirigeants européens accueillent les migrants. Il y a quelques jours, ces principaux dirigeants de la planète se réunissaient à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, avec pour principal sujet la Syrie. Pas pour parler de l'aide humanitaire urgente à apporter aux millions de réfugiés syriens. Non, mais pour discuter de guerre, de bombardement et d'alliances, y compris avec des dictateurs sanglants. Les grandes puissances ont donc décidé d'intensifier la guerre contre Daesh en Syrie, avec peut-être dans quelques mois une nouvelle intervention terrestre. Et une fois de plus, ils nous expliquent que la guerre serait la seule façon de rétablir la stabilité dans la région. Mais quelle stabilité y a-t-il en Irak ou en Afghanistan, après des années de guerre et d'occupation? Regardez à Kaboul où la nuit dernière, des personnes ont été tuées dans un hôpital de Médecins Sans Frontières par les bombes américaines. Il n'y aura pas plus de stabilité en Syrie tant que cette région restera un terrain de rivalité pour les grandes puissances. Des États-Unis à la Russie, en passant par le Qatar, la Turquie ou l'Iran, chacun alimente le chaos en soutenant telle bande armée contre telle autre, en montant les chiites ou les kurdes contre les sunnites, et quand les autres font le calcul inverse. Et que dire des minables manœuvres des dirigeants français qui, la veille de cette réunion de l'ONU, ont commandé des frappes aériennes sur la Syrie pour que les intérêts des pétroliers et des marchands de canons français ne soient pas oubliés dans ces tractations. Pour la droite et le Front National, Hollande n'en fait pas encore assez. Ils expliquent qu'il faut s'appuyer sur Bachar al-Assad, quand bien même ce dernier est responsable d'avoir mis son pays à feu et à sang bien avant que Daesh n'existe. Mais combien de ceux qui quittent la Syrie fuient les bombes et le régime d'Assad? Et la seule chose que ces politiciens trouvent à leur dire, c'est « rejetez-vous, les bombardements vont continuer et on va aider Assad ». Les bombes françaises, comme le font d'ailleurs les bombes américaines qui s'abattent sur la Syrie depuis plus d'un an, feront de nouvelles victimes civiles. Et à cela s'ajoutent maintenant les bombes russes. Ces frappes viendront rajouter sur les routes de l'exil de nouveaux contingents de réfugiés, sans pour autant affaiblir Daesh et sa dictature moyenâgeuse. Faut-il le rappeler? La barbarie qui ensanglante le Moyen-Orient est le fruit direct des attaques lancées par les grandes puissances en Irak, en Afghanistan ou en Libye. L'État islamiste s'est nourri du démantèlement de l'Irak sous l'égide des États-Unis. Il s'est nourri des armes et du soutien apporté par les Occidentaux et leurs alliés, que sont l'Arabie Saoudite ou la Turquie. Chacune de leurs interventions, du Moyen-Orient à l'Afrique, n'a fait qu'accroître le chaos et les souffrances des populations. Et de nouvelles interventions ne feront que renforcer les milices barbares en tout genre. Alors, les travailleurs ne doivent pas approuver les interventions militaires françaises, ni en Syrie, ni en Irak, ni ailleurs. Oui, la politique prônée en Syrie par tous ses dirigeants est honteuse. Elle est aussi criminelle quand ils défendent la fermeture des frontières et érigent de nouveaux murs et barbelés contre ceux qui ont pris la route de l'exode. Merkel devenue Mère Teresa l'espace de quelques jours, a remis les contrôles aux frontières, entraînant par réaction la fermeture des frontières des pays voisins et emprisonnant ainsi des migrants en Hongrie. Viktor Orban, dirigeant d'extrême droite hongrois, reconstruit aux portes de la Hongrie un nouveau rideau de fer pour empêcher les migrants de traverser son pays. Il fait matraquer les familles démunies et joue maintenant le chien de garde pour l'Allemagne et pour l'Autriche. Orban met aussi en place des barbelés entre la Hongrie et la Roumanie, là où vit une grosse minorité de Roumains hongrois. Ceux-ci qui avaient l'habitude de circuler librement ne pourront plus le faire. En France, Valls a annoncé plus de policiers pour renforcer les contrôles dans l'est de la France, mettant ainsi en difficulté bien des travailleurs qui chaque jour vont en Belgique ou en Suisse pour travailler. Et tous, ils annoncent aussi plus de barbelés à l'extérieur de l'Europe. En quelques jours, l'un des rares progrès de l'Union européenne, celui de la libre circulation des Européens dans l'espace Schengen, qui datait de plus de 30 ans, a été balayé, peut-être définitivement. Voilà le vrai visage de l'Europe capitaliste, balafrée par les barbelés et les camps de rétention. Et à quand les champs de mines ? Voilà leur Europe, où chaque pays est devenu une forteresse par rapport à l'autre. Alors, il y a déjà eu trop de morts, trop de naufrages, trop de personnes électrocutées à Calais ou asphyxiées dans des camions. Face à l'Europe forteresse, les travailleurs doivent réclamer la liberté totale de circulation et d'installation, sans entrave ni visa, et cela pour tous les migrants. Pour faire taire tout sentiment d'humanité, pour nous faire accepter de regarder les migrants mourir à nos portes, les dirigeants politiques nous répètent qu'on ne peut accueillir toute la misère du monde. Comme si les travailleurs n'avaient pas d'autre choix que de se partager la misère. Comme s'il fallait se résigner à être en concurrence les uns avec les autres. Et demain, à se battre entre nous pour récupérer les quelques miettes tombées de la table des riches. Comme si ceux qui ont encore un tout petit peu seraient menacés par ceux qui n'ont plus rien. Mais la misère du monde, ce n'est pas une catastrophe naturelle, ni ici, ni dans les pays d'Afrique ou au Moyen-Orient, ni en Syrie. Les travailleurs n'ont aucune raison de se résigner à devoir se la partager, alors que les richesses s'accumulent dans les mains d'une minorité. Ceux qui, parmi les travailleurs, sont inquiets de ce qu'il y a déjà beaucoup de chômeurs, doivent avoir en tête que le chômage, la précarité et les bas salaires ne dépendent pas de l'arrivée des migrants. Tout cela dépend du rapport de force avec le patronat et des luttes que le monde du travail est capable de mener contre les licencieurs et tous les groupes capitalistes rapaces. L'emploi n'est pas un stock limité qu'il faudrait se partager, et le chômage, pas plus que les guerres et la misère, n'est une loi naturelle. Il résulte de la politique patronale qui consiste à exploiter au maximum ceux qui travaillent pendant que toute une fraction de la jeunesse se morfond au chômage. La bourgeoisie, et c'est laquelle, nous présente les migrants comme un danger. Eh bien, c'est pour les mêmes raisons qu'ils opposent les intérimaires aux CDI, les salariés du privé à ceux du public ou aux fonctionnaires. Tout ça pour masquer leur responsabilité dans le recul des conditions de vie de la classe ouvrière. Et quand Marine Le Pen vient pérorer, comme hier soir à Calais, contre la vague de migrants, c'est pour mieux justifier les licencieurs et les exploiteurs du grand patronat. Alors les travailleurs ne doivent pas se tromper de camp. Ils ont tout intérêt à ne pas se laisser opposer les uns aux autres, comme ils ont tout intérêt à être solidaires des migrants contre tous ces dirigeants. Au-delà même du sentiment de solidarité qui est le nôtre, il en va de nos intérêts politiques en tant que travailleurs. Même si certains migrants ont été médecins ou ingénieurs, ils ont tout perdu. Et dans leur immense majorité, c'est une vie de prolétaire qui les attend ici, une vie d'exploitation, notre vie. Et nous ici, nous sommes tous des migrants potentiels, à la recherche d'un emploi et d'un lieu pour vivre, au gré des crises et des fermetures d'entreprises. Alors pour que ces femmes et ces hommes deviennent de futurs camarades de lutte contre le chômage et l'exploitation, Nous devons en faire des alliés. Nous devons les accueillir comme nos frères. Les serviteurs de la bourgeoisie au gouvernement nous expliquent qu'il faut se résigner face à la misère. Ils nous expliquent qu'il faut se résigner face au chômage, au licenciement, parce que c'est la crise. Tous les jours, ils nous prêchent la résignation. Il faudrait accepter le chantage patronal avec du temps de travail en plus et du salaire en moins. Sinon, c'est la porte. C'est exactement ce que voudraient imposer les patrons aux travailleurs de chez Smart ou Air France en ce moment. S'il y a du chômage, en France, on nous explique que c'est de la faute des fonctionnaires et de leur statut d'infirmière ou de postier. Mais ce n'est pas la faute des licencieurs, ni celle de leur avidité. Hollande, Valls ou Macron, qui n'ont de cesse de multiplier les attaques anti-ouvrières, déroulent le tapis rouge pour le patronat, alors que la bourgeoisie se gave. Oui, la bourgeoisie se gave. N'importe quelle grande entreprise peut aligner des milliards pour en racheter une autre. Un PDG peut recevoir 13 millions d'euros en remerciement. Un groupe comme Volkswagen peut provisionner plus de 6 milliards en quelques heures dans la perspective de payer ses amendes suite à sa tricherie. Mais combien de travailleurs pourraient vivre avec tout cela ? Combien de travailleurs pourraient vivre avec les 571 millions de bénéfices du groupe Peugeot-Citroën pour le seul premier semestre 2015 ? Combien de logements pourrait-on construire avec les 18 milliards versés par le gouvernement au patronat cette année au seul titre du crédit d'impôt compétitivité-emploi ? Alors oui, accepter aujourd'hui que des travailleurs meurent devant nos frontières, c'est se résigner à être nous-mêmes des laissés pour compte demain. Les travailleurs ne doivent pas l'accepter, pas plus qu'ils ne doivent accepter les reculs qu'on veut leur imposer ici, et ils doivent saisir toutes les occasions pour le dire. Et d'ailleurs, l'une des occasions qu'on saisira, comme vous le savez peut-être, c'est de présenter les listes de lutte ouvrière aux prochaines élections régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre prochains. Nous voulons, au travers de ces élections, en effet, faire entendre le camp des travailleurs. Nous voulons que ceux, des retraités, des chômeurs, des salariés qui sont conscients d'être sacrifiés sur l'autel des profits patronaux et qui n'acceptent pas, puissent le dire. Nous voulons que les travailleurs qui ont une conscience de classe puissent le faire. Bien sûr, les conseils régionaux sont des assemblées de notables, bien ancrées dans la vie de la bourgeoisie locale. Et les élus qui tenteraient de s'y faire entendre, d'y faire entendre l'intérêt des travailleurs, le feraient dans un milieu socialement hostile et sourd, bien sûr. Reste que ces élections ont lieu en même temps partout dans le pays. Et au lendemain du scrutin, tous les commentateurs discuteront des résultats des différents partis au niveau national. Eh bien, elles sont donc une occasion de s'exprimer politiquement à l'échelle du pays et de faire entendre notre camp, celui des travailleurs. Dernièrement, on a entendu les agriculteurs, les petits et même les gros. Eh bien, il faut que les salariés, les travailleurs, les exploités, eux aussi puissent s'exprimer. L'ouvrier qui se lève tous les jours à 5 heures pour fabriquer des voitures qu'il ne pourra peut-être jamais se payer. L'ouvrière qui est usée par 20 ans de travail à l'usine ou sur un chantier de nettoyage. Eh bien, il faut qu'ils puissent exprimer leurs besoins, exprimer leurs revendications. Comment pourraient-ils le faire dans ces élections s'ils en sont réduits à choisir entre les listes des partis institutionnels ? Ils ne pourraient pas le faire. Ne parlons pas de la droite et de l'extrême droite, des partis dévoués à l'ordre bourgeois et des partis anti-ouvriers et réactionnaires. Mais à gauche, quel parti reste-t-il pour mettre en avant les intérêts des travailleurs ? Aucun. Le Parti socialiste au gouvernement répète à longueur de journée que les travailleurs et les patrons sont dans le même bateau, qu'ils ont les mêmes intérêts. Toutes les décisions qu'il prend sont favorables au grand patronat et font reculer la condition ouvrière. Mais il s'évertue à nous faire croire qu'il n'y a pas d'intérêt contradictoire entre le patronat et les travailleurs et que pour nous un jour, ça ira mieux. Quant à la gauche radicale, le parti de gauche de Mélenchon ou le parti communiste, Bien sûr, il se démarque de la politique du gouvernement socialiste, mais il ne s'adresse pas spécifiquement aux travailleurs pour mettre en avant un point de vue ouvrier. Cette gauche dite radicale a pris Tsipras en Grèce en exemple, comme une politique alternative possible face à l'austérité. On voit aujourd'hui ce qu'il en est. Si Tsipras vient d'être réélu, il va se retrouver à appliquer lui-même tout ce qu'il était opposé, supposé refuser. Il va baisser les retraites, augmenter la TVA et les impôts des paysans pauvres, couper dans les dépenses publiques et privatiser tout ce qui peut encore l'être. Tsipras n'a en réalité jamais remis en cause le droit des financiers à exiger leur dîme. Jamais il ne s'est placé clairement dans le camp de la classe ouvrière. Il s'est toujours refusé à écorner même un peu les profits de la bourgeoisie de son propre pays. Et les dirigeants européens, la bourgeoisie, les financiers, ne s'y sont pas trompés. Convaincus qu'ils n'iraient pas jusqu'à s'en prendre à leurs intérêts, ils n'ont cédé sur rien. Ce que les travailleurs grecs viennent d'apprendre à leurs dépens, il faut que cela serve de leçon aux travailleurs ici aussi. Il faut se méfier comme de la peste de tous ceux qui prétendent faire le bien des travailleurs sans être pris à combattre les intérêts de la bourgeoisie. Il faut se méfier de ceux qui prétendent que le bulletin de vote pourrait suffire à faire reculer l'avidité des capitalistes. Il faut se méfier de tous ceux qui n'expliquent pas à la classe ouvrière qu'elle n'obtiendra rien sans se battre contre la bourgeoisie. Il ne suffit pas dans cette période de crise d'un gouvernement qui se prétend du côté des classes populaires pour arriver à imposer une politique qui leur soit réellement favorable. Car le vrai pouvoir est celui des classes possédantes et elles ne céderont sur rien de leur plein gré. Les partis qui prétendent qu'il peut y avoir de bonnes solutions ou une bonne politique par rapport à la crise dans le cadre du système capitaliste mentent aux travailleurs et ils les désarment. La bourgeoisie est bel et bien empêtrée dans une crise dont elle n'a pas la maîtrise. Et la seule solution qu'elle a trouvée pour préserver et accroître ses profits et surtout les revenus de ses actionnaires, eh bien c'est de faire payer aux classes populaires, c'est de faire payer les travailleurs. Alors nous, à lutte ouvrière, à l'inverse, dans ces élections, nous ne prétendrons pas avoir une politique pour résoudre les problèmes de l'économie en général ou pour relancer la croissance économique. Ce n'est de toute façon pas possible dans le cadre du système capitaliste. Mais nous nous présentons pour que les travailleurs puissent dénoncer les coûts patronaux et toute la politique anti-ouvrière du gouvernement. Tous les jours, on nous parle des difficultés du patronat et des mesures qu'il faudrait prendre pour l'aider. Eh bien nous voulons donner la possibilité aux travailleurs, aux chômeurs, aux retraités, de mettre en avant les mesures qui leur sont vitales. Sinon, quel choix auraient les travailleurs dans ces élections ? De voter pour les uns dans le seul but d'en éliminer d'autres ? Comme en 2012, où on nous disait, quand on était contre Sarkozy, qu'il suffisait de l'éliminer en votant Hollande ? Vous parlez d'un choix pour les travailleurs. Le choix de se faire utiliser par des partis bourgeois qui feront demain une politique contre nos intérêts. Nous proposons à l'électorat populaire de se prononcer sur une politique qui représente les intérêts de la classe ouvrière à court et à long terme. Cela signifie, dans les conditions actuelles de la crise, de mettre en avant un programme de lutte contre le chômage et la baisse du pouvoir d'achat. Cela fait 10 ans, 20, 30 ans que la classe politique répète qu'il suffit de baisser les charges et qu'il faut subventionner le patronat pour combattre le chômage. Tous les gouvernements qui se succèdent arrosent en effet le patronat de subventions, de crédits d'impôts, d'exonérations. Et le chômage ne cesse de monter. Il est donc manifeste, prouvé, que cela ne marche pas. Et qu'est-ce que l'on continue à entendre du soir, du matin au soir ? Il faut baisser les charges des entreprises. Ce mensonge est asséné comme l'évidence, comme la vérité absolue. Et fort de ce succès, voilà que le patronat aidé du gouvernement nous explique maintenant qu'il faut simplifier le code du travail pour combattre le chômage, qu'il faut supprimer les 35 heures, qu'il faut changer le statut des fonctionnaires pour qu'ils soient licenciés plus facilement, qu'il faut accepter un rallongement du temps de travail et des baisses de salaire, car pour préserver les emplois, il faudrait être plus compétitif. Eh bien, nous disons, pour mettre fin au chômage, il faut interdire les licenciements et les suppressions d'emplois dans toutes les entreprises, et il faut répartir le travail entre tous sans diminuer les salaires. On nous répond que ce n'est pas réaliste. En effet, parce que dans cette société, la seule politique qu'ils considèrent comme réaliste, c'est de faire la politique des patrons. C'est de faire reculer les travailleurs des décennies en arrière pour qu'ils soient de plus en plus exploités. Prenez les 35 heures. Les banquiers, les capitalistes ont mis l'économie au bord du gouffre. Aujourd'hui, la spéculation continue. Les grands groupes qui ont de l'argent par-dessus la tête ne veulent pas investir, ils ne veulent pas embaucher. Et on nous dit, si l'économie va mal, c'est de la faute aux 35 heures. Et on entend depuis plusieurs jours les patrons d'Air France, sur toutes les ondes, expliquer aux travailleurs qu'ils font partie d'une même équipe, celle de l'entreprise, que dans une équipe, tout le monde a les mêmes intérêts et doit aller dans le même sens. Et que ceux qui, des travailleurs, n'acceptent pas les sacrifices seraient responsables des suppressions d'emplois, voire des licenciements. Eh bien, les travailleurs qui ont une conscience de classe, qui ne supportent plus d'entendre le patronat et ses serviteurs politiques monopoliser la vie politique et nous distiller tous leurs mensonges, ils doivent prendre la parole, ils doivent prendre la parole dans ces élections. Et la meilleure façon de le faire, le plus clairement possible, eh bien, c'est de voter et de faire voter autour de vous pour les listes de lutte ouvrière. Personne ne pourra se tromper sur le sens des votes pour lutte ouvrière. Ils seront interprétés comme l'affirmation d'un camp, celui des salariés, des chômeurs, des retraités qui sont victimes de la crise et qui sont conscients d'être sacrifiés, mais qui ne l'acceptent pas. Ces votes montreront que des travailleurs sont conscients qu'il ne suffit pas de voter pour un programme défendant leurs intérêts pour l'obtenir, mais que pour cela, il faudra l'arracher à la grande bourgeoisie et il faudra l'imposer par des luttes collectives puissantes. Ces votes montreront que les travailleurs sont conscients qu'on ne peut réformer le capitalisme, mais qu'il faut le renverser. Et oui, au-delà de la situation immédiate des travailleurs, nous voulons faire entendre les perspectives communistes. Nous voulons profiter de ces élections pour montrer qu'il existe un courant politique qui se place dans la perspective du renversement du pouvoir de la bourgeoisie sur la société. Car l'organisation capitaliste de la société est non seulement incapable d'assurer à tout un chacun de quoi faire face à ses besoins alimentaires, mais elle pousse l'humanité vers la barbarie. Les dirigeants actuels de cette société, la grande bourgeoisie et ses sous-fifres politiques, sont incapables de résoudre aucun des problèmes fondamentaux qui se posent à la société, que ce soit la crise économique, le chômage de masse, que ce soit la pollution ou les multiples guerres, qui transforme de plus en plus de régions du monde en enfer pour les populations. Le système capitaliste est en faillite sur tous les plans. Alors il faut que la tradition qui a été présente pendant longtemps dans la classe ouvrière, celle du communisme révolutionnaire, continue de se manifester dans le monde du travail. Les élections sont une occasion supplémentaire de montrer qu'il existe des femmes et des hommes qui continuent de se revendiquer des idées de lutte de classe, ces idées qui ont représenté une force pour les travailleurs dans le passé. Eh bien, nous en sommes convaincus, c'est elles qui représentent toujours la seule perspective valable pour les travailleurs et pour toute la société.